Donc ce matin, le titre s'intitule « L'épouse véritable se prépare ». On va aller ensemble dans Actes, chapitre 2, versets 17 à 20. Il est écrit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, « dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles. » Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit « des signes prodigieux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, qu'on pourrait comprendre possiblement comme étant des volcans en éruption. Le soleil se changera en ténèbres. » Ici, on parle des éclipses solaires. « Et la lune en sang. » Ce que la NASA appelle des « blood moons » en anglais ou des « lunes de sang » en français. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux, ici qui nous parle du dénouement de l'Apocalypse. Et puis ce matin, ce qu'on veut voir ensemble, c'est un message que le Seigneur veut donner à son Église. Et je ne parle pas ici simplement de EVQ, mais de son Église avec un grand E. C'est un message, en fait, que je vais vous partager, mais que plusieurs serviteurs de Dieu partagent en ce moment. Et je crois que Dieu veut multiplier les voix concernant ce message qu'on entend aujourd'hui, mais qu'on n'entend pas partout. Mais Dieu, le cœur de Dieu, c'est une multiplication. Qu'il puisse y avoir vraiment une multiplication de ces voix concernant le message que je vais vous apporter, que je crois qu'il est de Dieu. C'est pas moi qui est spécial aucunement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le veut ainsi, qui veut qu'on puisse entendre ce message. Et comme je vous dis, je crois que l'Esprit de Dieu travaille en ce moment. Et ce message-là, on va entendre de plus en plus parler des choses que je vais vous partager. Mais la première chose que je voulais voir avec vous, est-ce que c'est correct aujourd'hui de parler des visions qu'on peut recevoir? Est-ce que c'est correct d'en parler dans une prédication? Et vous allez dire, oui. Oui. Pourquoi? On vient de lire le texte qui nous dit, dans les derniers temps, il va y avoir des visions, et puis des songes, et puis toutes les autres choses qu'on a mentionnées ici. Les serviteurs vont prophétiser, avoir des visions et des songes. Donc, si dans les derniers temps, la parole de Dieu nous dit que ces choses-là vont se produire, que l'Esprit de Dieu va communiquer à son Église avec des signes comme ça, des prophéties, des visions et des songes, bien, c'est important pour nous de saisir et comprendre ces songes-là que Dieu est en train de donner. Donc, on a la parole de Dieu, mais on comprend également que Dieu va nous donner des songes pour nous avertir des choses à venir. Et puis, ce matin, j'aimerais ça vous inviter maintenant dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 27. Éphésiens chapitre 5 et le verset 27. Et je vais vous partager ici des choses concernant un songe que j'ai reçu samedi matin. Dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 27, il est écrit « Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. » Je vais relire le texte. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Et on sait que la seule façon qu'on puisse vraiment refléter la gloire comme ça, qu'on puisse être sans ride, sans défaut, c'est uniquement à cause du sang de Jésus. Amen. Si on peut glorifier Dieu dans nos vies, c'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est simplement parce que le Seigneur nous a tellement aimés. Le Seigneur nous a tellement aimés qu'il est mort sur la croix. Et lorsque nous plaçons notre foi en lui, le Seigneur nous pardonne. Lorsqu'on lui demande de nous pardonner de nos péchés, le Seigneur vient nous laver, nous purifier. Et il échange nos vêtements sales pour des vêtements blancs, des vêtements de pureté. Et cette pureté-là est accessible seulement lorsqu'on place notre foi en Jésus. Mais c'est merveilleux parce que là, on passe de la mort à la vie, du pécheur au saint. Et gloire à Dieu pour la sainteté que nous pouvons vivre. Mais vous savez, on peut parler de la position en Christ, que nous sommes saints, mais souvent également, on peut oublier que Dieu nous appelle à vivre la sainteté dans notre condition humaine également. Et l'épouse que le Seigneur vient chercher, c'est une épouse qui a une condition avec un désir de vivre dans la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'une personne ne chutera pas. Une personne peut chuter, certainement, mais lorsque la personne chute, elle doit se repentir à nouveau et se relever. Amen? Amen. Dieu ne nous appelle pas à marcher dans le péché perpétuel et dire, bien, en Christ, je suis parfait. Non, en Christ, on peut être parfait, certainement, parce que c'est l'œuvre de la croix qui compte, c'est l'œuvre de la croix qui a fait en sorte qu'on soit pardonné nos péchés. Mais dans notre condition humaine, si on chute, Dieu nous appelle à se relever. Amen. Et ne pas perdre courage et ne pas dire, bien, que veux-tu, c'est juste normal que je marche comme ça, je suis simplement un être humain. Et il y a un courant dans le corps de Christ, et de plus en plus, les gens s'abandonnent là-dedans et se disent, bien, coudonc, je suis un être humain et c'est tout à fait normal, je vais vivre dans le péché, mais Dieu dans sa grâce même. Faisons attention, frères et sœurs, faisons attention, parce que oui, Dieu nous aime, mais Dieu nous aime trop pour nous laisser dans le péché. Dieu nous appelle à vivre également dans la sainteté. Gloire à Dieu. Amen. Dans Ésaïe 56, verset 10, ça nous parle ici que les gardiens en Israël, ou les sentinelles, ça nous disait, sont tous aveugles dans Ésaïe 56, verset 10. Ces gardiens, en parlant des gardiens en Israël, sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Donc, on sait qu'il y a eu un temps où les gens qui devaient avertir le peuple de Dieu ne le faisaient pas. Et ce matin, ce que je veux vous partager, c'est simplement, en fait, ce que l'Esprit de Dieu veut que vous puissiez recevoir dans votre vie. Et vous savez, mon seul devoir, c'est d'obéir au Seigneur. Mon seul devoir, mon devoir dans la vie, c'est pas que vous m'aimiez. J'aimerais ça. Hein? On aime tous être aimés. Mais ce n'est pas mon devoir dans la vie. Mon devoir, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Le songe que j'ai reçu, c'était samedi matin. Je vais vous dire tout simplement ce que j'ai reçu. J'étais couché dans mon lit, et puis dans le rêve, ce que je voyais, c'était une très belle maison. J'étais avec mon épouse, et puis on était dans cette très belle maison ensemble. C'était un beau décor blanc. Je voyais des escaliers qui montaient. Et puis ça scintillait, c'était très beau. Et puis, on admirait la beauté de la maison. Et là, on a vu une femme qui est sortie d'une pièce avec sa mère. Et c'était une femme qui était vêtue d'un vêtement blanc. C'était une femme qui était vêtue comme une mariée. Elle était belle, une belle femme, prête à se marier. Et comme je l'ai vue tout d'un coup, j'ai dit, « Ah, mon Dieu, c'est moi qui fais le mariage. J'ai besoin d'avoir mes notes pour faire le service, pour faire la cérémonie, pour célébrer le mariage. » Et puis là, je me suis dirigé vers le téléphone pour appeler chez mes parents parce que dans le rêve, j'avais laissé mes notes chez mes parents. Comme je prends le téléphone, déjà, je n'avais même pas besoin de signaler. Ma mère était au bout du téléphone. Et puis là, je parle avec ma mère et j'ai dit, « Ah, j'ai besoin d'avoir mes notes. J'ai besoin de passer à la maison pour aller chercher mes notes. » Et puis elle dit, « Non. » Elle dit, « Écoute. » Elle dit, « Elle devra apprendre une nouvelle très triste. » Puis là, j'étais au bout du téléphone. « Elle devra apprendre que elle devra apprendre que son père vient de mourir. » Et puis, je me suis réveillé. Puis là, dans ce rêve-là, je me suis dit, en me réveillant, je savais tout de suite, je savais que Dieu me donnait ce rêve et ça concernait l'épouse de Christ. Et puis, bon, j'ai vu cette femme, qu'elle était là juste avant de partir pour le mariage. Elle était là, prête à s'en aller. Je la vois arriver avec sa mère. Et je sais qu'on s'en va aux noces, là, on s'en va au mariage. Mais là, elle devait entendre une triste nouvelle, une tragédie, que son père, qui était pour marcher avec elle dans le mariage, que son père venait de mourir. Et puis dans mon rêve, je me souviens, j'étais comme tout à l'envers. Oh non, est-ce qu'elle va poursuivre dans le mariage? Est-ce qu'elle va abandonner? Parce qu'imaginez, si c'était une histoire véritable, on dirait... La femme peut-être dirait, ben c'est impossible pour moi de me marier dans ces conditions-là, c'est trop triste. Je suis trop à l'envers. Et puis, dans ce rêve-là, j'ai tout simplement compris qu'elle devait apprendre la nouvelle que son père était décédé. Je me suis réveillé et là, j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Parce que souvent, Seigneur, quand j'ai des rêves comme ça, j'ai l'interprétation tout de suite, mais j'ai dû demander au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, ce père-là? Qu'est-ce qu'il représente? Et Dieu m'a tout simplement dit, le Père ici représente un Père dans le naturel, pas le Père céleste. Le Père céleste ne mourra jamais, mais dans le naturel. Et souvent, la façon qu'on peut concevoir ou percevoir notre Père, c'est comme étant une personne qui est un pourvoyeur. Un pourvoyeur et en même temps quelqu'un qui nous apporte une sécurité humaine. Et puis tout ça, j'ai compris ici, c'est que Dieu veut avertir l'épouse de Christ. En fait, que Jésus va revenir chercher son épouse, mais c'est une épouse qui s'est préparée et qui a vécu un certain deuil. Et le deuil, c'est de ne plus s'appuyer aucunement sur une sécurité humaine. Mais l'épouse doit être totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Que l'épouse doit être totalement confiante et n'avoir plus aucune dépendance sur le bras de la chair. Puis c'est ça que j'ai compris. C'est un rêve qui est assez simple, mais quand je l'ai reçu, je savais que Dieu voulait nous parler ce matin. Et je savais en même temps que Dieu voulait parler à son Église. Que l'épouse véritable de Christ n'aura pas sa confiance dans la parole de l'homme, n'aura pas sa confiance et sa dépendance sur le bras de la chair. Mais l'épouse véritable de Christ, cette épouse-là, va faire uniquement confiance à son Dieu. Elle se marie à Christ. Elle ne se marie pas aux choses charnelles et terre à terre. Et vous pourrez dire, ah ben c'est sûr, on le savait ça. Mais si Dieu nous donne un message comme ça, c'est parce qu'il veut nous révéler d'autres choses également. Il y a des niveaux de compréhension que peut-être en ce moment vous recevez un certain niveau, mais le Seigneur Dieu veut continuer à travailler cette parole dans vos cœurs. Et si vous dites dans votre cœur, bien, ok, bien ça c'est correct pour moi parce que moi j'ai aucune dépendance sur les choses de ce monde, ma dépendance est déjà sur Christ. Prenez le temps et méditez sur cette parole que je vous partage aujourd'hui. Est-ce que c'est possible qu'il y ait encore une dépendance sur les choses de ce monde? Des choses, une sécurité, une fausse sécurité en fait. Dans Jérémie 17, verset 5, il est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Je vais relire « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » On est dans une saison spirituelle où ce texte-là concerne l'Église de Jésus, où il y en a plusieurs qui se détournent, qui détournent leur cœur de l'Éternel, qui cessent d'être loyal envers leur Dieu parce qu'ils veulent suivre l'homme. Ils vont prendre la chair pour appui. Et puis, ils vont se dire, « Bien, c'est impossible pour moi d'agir de telle ou telle façon parce que pour moi, ça serait trop difficile. » Mais l'épouse véritable de Christ, l'épouse véritable de Christ va être dépendante exclusivement sur le Seigneur Jésus et sur ce qu'il va vous dire. Amen. Et puis, il y a présentement une démarcation évidente dans le corps de Christ. Partout où je me promène et les témoignages que j'entends constamment ce message qui revient. Il y a une démarcation évidente en ce moment dans le corps de Christ. Si on est ouvert, si on est dans un discernement spirituel, on verra, on va voir sans exception qu'il y a vraiment une démarcation qui est en train de se produire dans le corps de Christ comme jamais auparavant. Dans 2 Thessaloniciens, venez avec moi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9 et 10. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 et 10. L'apparition de cet impie, en parlant de l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Dans la Bible du Sommeur, ça nous dit toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et des prodiges trompeurs, et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Dans la Bible du Sommeur, ça dit toutes les formes du mal pour tromper, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Écoutez bien ceci ce matin. Il y a un peuple qui aime la vérité, la parole de Dieu. Ma prière, c'est que je vous décris en ce moment. Vous aimez la vérité de la parole de Dieu. Amen. Vous aimez la parole de Dieu et vous aimez la vérité. Ce matin, si vous aimez la parole de Dieu, vous aimez la vérité, gloire à Dieu, vous êtes en bonne compagnie et gloire à Dieu, Dieu vous protégera. Amen. On aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu, vous aimez la parole de Dieu. Et ça nous dit, ceux qui périssent, bien, eux n'ont pas reçu l'amour de la parole de Dieu. On peut avoir des gens dans nos églises qui sont là avec une Bible comme ça, avec nous. Ils peuvent chanter les chants avec nous, mais ils n'ont pas reçu l'amour de la parole de Dieu. Ils ont possiblement aimé l'ambiance. Ils ont peut-être aimé la fraternité. Ils ont possiblement aimé le fait d'avoir des amis, plus d'amis. Pour eux, c'est comme une place sociale. Mais en fait, la parole du Seigneur pour nous, c'est que l'Église véritable, c'est une Église qui aime la vérité de la parole de Dieu. Et on ne périt pas dans la parole de Dieu. On a la vie éternelle en Christ. Mais il y a vraiment deux camps. Il y a le camp du compromis et un camp de l'intégrité. Le compromis, c'est la crainte de l'homme. L'amour de l'opinion populaire. Dans le sens, on va prêcher ce que les gens veulent entendre. Si on prêche ce que les gens veulent entendre, on va être aimé des gens. Mais pour être aimé des gens, on va devoir prêcher des choses que Dieu ne nous appelle pas à prêcher. On va prêcher ce que les hommes veulent entendre. Ça, c'est le camp du compromis. Mais ce n'est pas le camp de cette maison, frères et sœurs. Il y a un autre camp, et c'est le camp des amoureux de la parole de Dieu, où on veut prêcher ce que Dieu dit à son Église. C'est un camp d'intégrité, un camp qui dit, peu importe, même s'il n'y a personne qui veut entendre le message que je vais le prêcher quand même. Parce que je ne veux pas faire partie de ceux en Israël, qui étaient comme en Israël, des sentinelles qui n'avertissaient pas. Mais je veux avertir. Et je veux répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. Tout simplement, que vous aimez ça ou non. Mais je peux vous dire, il y a une protection spirituelle dans la vérité. Il y a vraiment une protection spirituelle dans la vérité. Ce matin, je vais demander en arrière au PowerPoint si on peut mettre le prochain PowerPoint. Je vais vous partager un témoignage ici. Avez-vous déjà vu l'émission Hour of Power à télévision? Je vais vous partager un peu certaines choses pour vous aider à comprendre. On est dans cette saison de transition dans le corps de Christ, où Dieu est en train de révéler des choses. Dieu est en train de révéler des choses, et puis comme on avance dans les jours dans lesquels nous vivons, on voit les passionnés de la parole, et on voit ceux qui sont tièdes. Dans cette église-là, c'est une église qui valait des millions, Crystal Cathedral, en Californie, le message qui était véhiculé là-bas, c'est que tous les chemins mènent à Dieu. Tous les chemins. Jésus, oui, est un chemin. Mais si on dit que Jésus est le seul chemin vers Dieu, bien, on manque d'amour. Et c'était un message qu'on appelait un message positif. On ne doit jamais parler du péché, parce que si on prêche contre le péché, les gens vont être inconfortables dans notre église. Donc, on ne mentionne pas le péché. On prêche un message positif. En fait, le prédicateur de cette église a dit, « Ce qui a nui le plus à l'église de Jésus, c'est le fait de mentionner le péché. » C'est ça le grand problème, c'est lorsqu'on dénonce le péché. On ne devrait pas dénoncer le péché parce que les gens vont être inconfortables parmi nous. Donc, la solution, c'était de laisser les gens dans le péché et leur donner un message positif qu'on appelait « Hour of Power ». Bien, cette église a fait faillite. Et puis, ils ont vendu, ils ont fait faillite. Ils étaient endettés au maximum. Ils ont vendu leur cathédrale qui appartient maintenant à l'Église catholique romaine. Ça, c'est la conclusion d'un faux message. Lorsqu'on prêche un autre évangile, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Même si on change le message, la bénédiction de Dieu ne sera pas sur ce message-là. Même si on peut avoir des foules, cette place-là, je ne sais pas combien de milliers de personnes étaient là. C'était plein, plein, plein à craquer. Et les gens venaient là, les stars d'Hollywood venaient et venaient témoigner. Des stars d'Hollywood, des vedettes qui vivaient dans la débauche venaient le dimanche matin et passaient en entrevue devant les milliers de personnes. Mais la vie n'était pas prêchée dans cette église. La preuve, le conducteur de la chorale là-bas s'est suicidé dans les bureaux de l'église. On parle ici d'une chose attrayante. Vous la trouvez-vous belle, cette église? Vous la voyez peut-être. Belle, moderne, belle. Mais elle ne prêchait pas la vérité et elle a vécu l'échec, la faillite. Prochain PowerPoint, s'il vous plaît. Je vais vous raconter ici une histoire. Avez-vous déjà entendu parler de la revue La Pure Vérité? En anglais, The Plain Truth. C'est une belle histoire, ce que je vais vous raconter ici. Ça me réjouit, parce qu'au lieu de vivre la faillite, ils ont vécu autre chose. Moi, pendant des années, depuis mon adolescence, Dieu m'a donné un cœur pour les personnes dans les sectes. Puis quand je parle des sectes, c'est dans les enseignements bibliques, mais en dehors de l'orthodoxe, en dehors de la vérité de la parole de Dieu. Bien, dans cette église, ils prêchaient un autre salut. La pure vérité avait plusieurs bonnes choses, parce que le diable ne donnera jamais le pur mensonge. Comprenez? Ce ne sera jamais le pur mensonge, sinon personne ne serait séduit. Pour être séduit, il faut avoir beaucoup de vérité et mettre beaucoup de poison. Et lorsqu'on prend le poison, finalement, on finit par mourir spirituellement. Mais dans mon adolescence, moi, j'étudiais les sectes parce que j'avais un cœur pour rejoindre les gens dans les sectes. Mais non seulement je passais du temps à étudier, mais également je priais pour les sectes. Je priais et je priais pour cette église. Vous allez me trouver bizarre, hein? Comme passe-temps, moi, comme adolescent, c'est ça que je faisais. Je priais, Seigneur, interviens pour l'église, Worldwide Church of God. Je prie pour ces personnes qui sont dans cette église, l'église universelle de Dieu. Et comme je priais, bien, j'ai appris qu'il y avait des choses qui se passaient. Un miracle se produisait. Dans cette église-là, qui a été fondée par un homme, Herbert W. Armstrong, qui enseignait toutes sortes de choses, je ne prendrai même pas le temps de vous dire ce qu'il enseignait, mais c'était un autre évangile. Cet homme-là s'est mis à prêcher toutes sortes de choses, et puis les gens venaient. Mais cet homme-là a fini par mourir, il est décédé. Et puis les gens qui restaient là ont commencé à étudier la Bible pour eux-mêmes. Ils ont commencé à étudier la Bible. Avant, ils écoutaient les enseignements du pasteur Herbert W. Armstrong. Ils l'écoutaient. Oui, il se servait de la Bible. Mais vraiment, lire la Bible pour eux-mêmes, c'est une chose qu'ils ne faisaient pas vraiment. Et puis, lorsque cet homme-là est décédé, l'Esprit de Dieu a commencé à travailler. L'Esprit a commencé à travailler sur les gens qui étaient au gouvernement de cette religion-là, qui étaient partout à travers les nations. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler individuellement sur les responsables, ceux qui étaient comme au collège des responsables, si on veut, là. Et puis, il y avait même un pasteur que je connais qui allait prier, qui allait simplement prier sur la grande surface de ce grand campus, parce qu'il y avait l'université Ambassador College également. Il y avait une grosse église, l'auditorium qui était là-bas. C'était beau, impressionnant, avec un ministère de télévision dans toutes les nations, partout, à travers le monde. Mais il y avait des chrétiens qui priaient pour cette religion-là. Et puis, comme l'homme est décédé, Herbert W. Armstrong est décédé, les gens se mettaient à lire la Bible pour eux-mêmes. Et puis tout d'un coup, individuellement, les gens commençaient à recevoir des révélations du Saint-Esprit, comprenant toutes sortes de choses. Dans cette religion-là, je peux juste vous dire, ils attaquaient le Saint-Esprit. Ils disaient que le Saint-Esprit était simplement une force comme de l'électricité. Ça arrive souvent. C'est une chose qu'on revoit ailleurs aussi. Mais ils dénigraient le Dieu de la Bible. Ça, c'est une des choses. Et puis, ils étaient vraiment fiers en dénigrant le Dieu de la Bible, notre Dieu trois fois saint. Mais là, ils se mettaient à étudier des choses. Et là, ils voyaient, mais coudonc, c'est même pas biblique ce qu'on croit. C'est pas biblique. Et là, il y avait un des responsables, vraiment haut placé, commençait à tâter le terrain pour voir s'il y avait d'autres personnes avec eux qui commenceraient également à douter l'enseignement du fondateur. Et là, il commençait à semer des questions. Et puis là, l'autre personne voyait aussi qu'il y avait des questionnements. Et là, finalement, ils se sont réunis ensemble pour tout dévoiler et dire, on remet tous en question l'enseignement du fondateur. Il me semble que ce que le fondateur enseignait est contraire à la Bible. Et puis finalement, ils ont eu une réunion entre eux, tous ces responsables-là. Les top dirigeants de cette religion-là. Et puis on dit, on doit revenir à la parole de Dieu. On doit se détourner des faussetés. On doit se détourner de notre appui sur la chair, sur le bras de la chair. On s'est appuyé sur un homme pour nous dire ce qu'on devait croire. Maintenant, on doit revenir à la parole de Dieu. Et puis il y en a un qui a dit, on risque de perdre 50% des gens dans notre association. Je ne peux pas vous dire combien de centaines de milliers de personnes ou plus qui étaient dans cette religion-là, mais c'était quand même impressionnant. Mais on dit, on va perdre sûrement la moitié, au moins la moitié des gens si on va vraiment vers la parole de Dieu, si on croit vraiment Christ au lieu de croire Herbert W. Armstrong. Mais on dit, mais on a l'amour pour la vérité. Ces gens-là qui étaient au collège des anciens, si on veut, désiraient vraiment la vérité. Ils avaient un amour pour la vérité. Ils avaient été séduits. Mais là, ils se retrouvaient devant une situation, ils savaient, c'est faux. On voit ce que la Bible nous dit. Et le miracle qui s'est produit, c'est que le Saint-Esprit a enlevé le voile devant leurs yeux et puis ils ont pu voir la gloire de l'Évangile. Pourquoi pensez-vous? Parce qu'il y avait des chrétiens qui priaient pour eux. Au lieu de dire, ils sont pris dans leur fausse doctrine, ils vont toujours rester là-dedans. Il y a des gens, des fois, qui vont déclarer des choses sur des religions. Ils vont toujours rester comme ça. Qui dit? Avez-vous prié pour cette religion-là, pour que le voile soit enlevé, pour que la gloire de l'Évangile éclate? Bien, je me souviens, en 1993, la pure vérité sortit. Et là, ils ont déclaré, nous croyons la Bible, mais de la bonne façon. Et puis, ils ont annulé les fausses doctrines. Et j'étais tellement dans la joie, j'ai envoyé une lettre de félicitations, puis j'ai dit, bienvenue dans la famille de Dieu. En 93. Et puis, ils m'ont même répondu, ils m'ont dit merci, merci pour l'accueil dans la famille de Dieu. Mais ça, c'est un miracle qui s'est produit. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu a travaillé en 93. Vous allez dire, ah, mais ça fait longtemps. Mais comprenez, c'était un travail de l'Esprit qui a commencé, mais on voit encore de plus en plus. Il y a un peuple qui se dresse, un peuple qui est là, qui aime la vérité. Des gens intègres qui aiment la vérité. Malheureusement, certainement, je peux vous donner la conclusion, quand ils ont fait les annonces dans les églises, ils ont annoncé, on se détourne de telle chose qu'on enseignait avant, ils ont perdu non seulement 50%, ils ont perdu 60% des membres de leur église. Imaginez le coût. Là, ils ont perdu leur bâtiment, leur collège, leurs églises. Ils ont pratiquement tout perdu. Ils ont congédié. Je pense qu'il y avait 1000 employés. Il leur restait 10 employés. Ils ont été prêts à tout sacrifier. Pourquoi? Pour la vérité. Amen. On peut voir deux histoires. Une église qui fait faillite, qui se retrouve entre les mains de l'église catholique. Une autre église qui se repent, un mouvement complet qui se repent. Oui, ils ont tout perdu, mais savez-vous qui a récupéré ce beau territoire-là? Une église du plein évangile qui ont racheté ça. Et puis aujourd'hui, ça sert pour proclamer la vérité. Donc, peu importe qui est en charge, on voit Dieu a pris contrôle de la situation parce que ces gens-là aimaient la vérité. Mais sur les 60% qui ont quitté, ils ont perdu encore plus après, il y en a qui ont dit non, moi, on va demeurer fidèle à Herbert W. Armstrong et oublions ce que Christ a dit. Herbert W. Armstrong dit la vérité. Mais eux, ils ont passé un autre ministère, Le Monde de demain. Si vous voyez sur Facebook Le Monde de demain, j'ai des invitations des gens qui me disent, clique là-dessus pour dire que tu aimes Le Monde de demain. Le Monde de demain, c'est la parole de Herbert W. Armstrong. Je vous le dis, je dois vous avertir, parce qu'ils sont très, très bons. Mais c'est contraire. Une des choses, je peux vous dire, tout simplement, Le Monde de demain enseigne que Dieu est une famille, vous pouvez faire partie de la famille de Dieu et devenir Dieu. Ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Bon, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que dans Jean 17, ça nous dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. La sécurité pour l'enfant de Dieu se retrouve dans la parole de Dieu. » Et quand j'ai eu ce rêve-là, samedi matin, hier matin, la sécurité qu'on peut avoir, des fois, on se repose sur l'être humain. Mais Dieu dit, l'épouse véritable n'a aucune dépendance sur la chair. L'épouse véritable a une dépendance sur la vérité de la parole de Dieu. Amen. L'autorité de la parole de Dieu, c'est ça qu'on a besoin de comprendre, que la Bible est l'autorité. La Bible est l'autorité pour notre vie. Amen. Gloire à Dieu. J'ai eu un rapport également de deux pasteurs qui font le tour du Québec. qui font le tour d'une association d'église. Je pourrais vous dire le nom, mais je ne le dirai pas parce que ce n'est pas nécessaire. Mais deux prédicateurs qui font le tour, qui vont remplacer des pasteurs constamment. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont en burn-out, les pasteurs sont en dépression, parce que les églises ne soutiennent plus l'œuvre de Dieu, les églises n'arrivent plus à payer leur hypothèque, les églises, ils perdent leurs églises. C'est le désastre. J'ai eu deux rapports récemment que partout où ces prédicateurs se promènent dans une association québécoise, c'est vraiment tragique ce qui se produit. C'est la mort partout. C'est ça qu'on m'a dit, c'est la mort partout. La mort, la mort, la mort. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné l'amour de la vérité. On a abandonné l'amour de la vérité. On a dit, prêche-moi quelque chose qui va me chatouiller les oreilles. Prêche-moi ceci, prêche-moi cela. Puis on a mis de côté l'amour pour la vérité. On a dit, je veux vivre des sensations, là. Oh, on en vit des sensations. Mais savez-vous comment on vit des sensations de gloire? Lorsqu'on se met à genoux et on prie, on cherche la face de Dieu et on loue le Seigneur. Dans une église, lorsqu'il y a une adoration véritable, où on s'abandonne et on loue notre Dieu, Dieu dit que la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. Et oui, on en vit des sensations. On vit la présence de Dieu. On vit la gloire de Dieu. Les larmes vont couler. La touche de l'Esprit est là. Mais tout se passe dans la vérité. Là où il y a l'absence de la présence de Dieu, c'est parce qu'on a prêché un autre message. On a mis de côté la croix de Christ. On a mis de côté la parole, ou même on diminue le temps de prédication, puis on dit, non, on ne prêchera pas une heure parce que les gens n'aiment pas trop ça. On va prêcher une demi-heure, puis on va avoir d'autres choses pour divertir les gens. Ou on va finir notre réunion plutôt vers 11h15 parce que là, les gens ont hâte de s'en aller. On est en train de diminuer constamment. Mais ça a été prophétisé dans la parole de Dieu. L'église de Laodicée, une église tiède. Une des choses, puis je dois vous dire la vérité, frères et sœurs. Bon, vous savez, j'ai prêché il y a quelques temps, il y a deux semaines, qu'il y avait un nouveau film qui sortait, Left Behind, avec Nicolas Cage, un film d'Hollywood, qui prêchait, qui nous présentait le message biblique de l'enlèvement de l'Église. Et puis, j'ai fait des recherches avec ma sœur. J'étais au téléphone avec ma sœur parce que je voulais trouver un cinéma dans notre région pour aller voir le film. Je fais des recherches. Il n'y a aucun cinéma dans la région. Je trouvais ça trop bizarre. Nicolas Cage, c'est une vedette super connue. J'appelle ma sœur, on fait des recherches ensemble sur Internet. Finalement, on trouve deux cinémas au Québec. Un cinéma sur la rue Sainte-Catherine, un autre cinéma qui était, je ne sais plus, Côte-Vertu. Deux cinémas. Mais là, je disais, OK, ben moi, là, je vais y aller. On va aller à Montréal, on va faire une heure de route pour aller voir le film, parce que ça m'intéresse. Donc, on arrive à Montréal en famille, on a toute notre famille. Ma femme et moi, mes deux filles, ma sœur, son mari, ses deux fils, mes parents. On était 9. Et là, on arrive là-bas, on était 10. Hein? On était 10, voilà. On était 10. On arrive de bonne heure à Montréal parce qu'on a dit, on veut être sûr et certain d'avoir des places. Parce que là, on est à Montréal, 1,6 million d'habitants. Et il y a plusieurs chrétiens là, dans la ville de Montréal. Plein d'églises à Montréal. Sûrement, on va se retrouver avec plein de chrétiens de partout qui attendent ce film-là, qui attendent la sortie. On arrive là à l'avance. Ensuite, on s'en va souper aux Arches d'Or, que ma femme l'appelle, les Arches d'Or. On s'en va manger notre Big Mac et on entend des anglophones partout autour de nous. On sait qu'on est dans un milieu très anglophone. On arrive au cinéma. Il n'y a pas un show où, je pense qu'il y a un couple qui est assis dans le théâtre de 300 places. Deux personnes. Là, finalement, il y a du monde qui arrive un petit peu. Au total, mon père a compté, on était 19 dans le théâtre pour voir ce film-là. On a écouté le film, très bien. C'est très, très bien. On a donné 7 sur 10. Ça, c'est pas ça qui est vraiment important. Mais qu'est-ce que ça nous a fait en sortant du cinéma? On a vu l'intérêt des gens, là. Des gens dans le monde sont totalement indifférents, et même l'intérêt dans le corps de Christ, l'indifférence totale. Indifférence totale. Une de nos sœurs est allée voir ce film-là quelques jours plus tard. Elle va voir ce film-là, et puis ils étaient 10. Même théâtre, hein, je pense, même théâtre. 10 personnes. On dit, mon doux, Si les gens s'absentent de l'église pour X raisons, mais au moins au cinéma, ils vont se rendre au cinéma. Même pas. Même pas. Vous direz, ah, mais c'est parce que c'est un film qui présentait seulement en anglais, on est au Québec, les gens parlent juste le français. C'est faux. On était au McDonald's, tout le monde parlait en anglais autour de nous, et à côté du cinéma, il y a une grosse église, pentecôtiste, une église anglophone. C'était vite quand même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Il se passe exactement ce que Dieu avait dit arriverait. On est en train de vivre l'accomplissement prophétique, frères et sœurs. Puis ça, c'est juste une des choses que je pourrais vous dire. Partout, dans tous les courants du corps de Christ, si vous êtes là et vous dites, ah, mais là, ça, c'est juste, je ne sais pas, au Québec. Peut-être c'est pire au Québec qu'ailleurs. Mais j'ai reçu une revue ici qui vient des États-Unis. Et je prends du temps ce matin, vous êtes encore avec moi? Je veux vous aider à comprendre ce qui se produit en ce moment. Il y a des courants, on le sait, qui sont déjà plus dans un penchant où ils vont nous avertir souvent. Par exemple, le prophète David Wilkerson avertissait l'Église et nous appelait à la sainteté, puis on sait que c'est un ministère comme ça. Donc, si on entendait un message comme ça, nous venant de cette Église-là, de Times Square Church, on dirait, ben, c'est normal, c'est leur mandat, ils nous exhortent à la sainteté, gloire à Dieu. Jim Cimbala vient de faire le lancement de son livre, un nouveau livre, c'est la première fois qu'il écrit un livre comme ça, qui s'appelle « Storm » ou traduction « Tempête ». Le titre, ça nous dit dans la publicité, ça dit « La tempête n'arrive pas, elle est ici ». Et ça, c'est le ministère de Jim Cimbala, Brooklyn Tabernacle, à New York. Et puis, on dit, OK, un courant comme ça nous avertit, mais avez-vous entendu parler de l'Institut biblique Réma? Vous avez entendu parler? Un autre courant, totalement, c'est un courant dans le corps de Christ qui est totalement différent. Et même dans ce courant-là, j'ai reçu cette semaine cette revue, ça s'appelle Preacher of Righteousness, prédicateur de la sainteté ou de la droiture. Et puis, Mark Barclay, qui est un prédicateur connu aux États-Unis, nous raconte un songe ou une vision, en fait, qu'il a reçue. Une vision qu'il a reçue en 1987. Et si je prends le temps de vous partager ça, comme j'ai partagé au tout début, on a vu le premier texte dans Joël, que dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et auront des visions, des songes, toutes ces choses-là. Donc, c'est biblique. Amen? C'est biblique que Dieu était pour faire ça dans les temps de la fin. Mais ici, il nous raconte un témoignage, une vision qu'il a reçue en 1987. Et puis, je vais vous partager sa vision, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais il nous dit une des choses. Je lisais la revue, et puis son épouse partage également un texte très intéressant. Mais son épouse nous dit ici, je vais vous dire en anglais, puis après je vais traduire. « The worst time of calamity for the church is coming upon us. » Le pire temps pour l'Église est devant nous, s'en vient sur nous. « Qui veut prédire ceci? Who wants to predict this? » Qui veut prédire ceci? Nous sommes des optimistes. « We are optimists, not pessimists. » Vous savez, chez Réma, à Réma, là, c'est le ministère où on prêche les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Réma et les autres ministères qui côtoient le mouvement de la foi sont souvent accusés d'être trop positifs. Trop positifs et toujours dans les promesses de Dieu, et même accusés d'être déséquilibrés parce qu'ils sont dans la victoire. Bon, ils sont souvent attaqués pour ça. Mais même de ce courant-là, on voit la parole qui est en train de venir. Elle dit, qui veut prédire ceci? Nous sommes des optimistes, pas des pessimistes. However, we would be negligent. On serait négligent dans notre appel si on n'avertissait pas le corps de Christ sur ce que l'Esprit de Dieu est en train de nous dire. C'est un jour où nous devons s'approcher de Dieu et obéir à sa parole. C'est un jour comme ça où on doit s'approcher de Dieu. Son mari a reçu une vision en 1987. Il explique ici. Il dit, j'étais dans un camp meeting à Tulsa, en Oklahoma. Et puis, j'étais là, et puis le Seigneur, pendant la réunion, j'ai été ravi dans une vision. Et dans cette vision-là, il dit, j'ai vu un gros nuage noir qui s'en venait sur la Terre. Il dit, je voyais comme la planète Terre qui était suspendue comme ça, et il y avait un grand nuage noir qui s'en venait sur la Terre. Et il dit, dans cette vision-là, je me suis mis à parler à cette vision-là, à parler au nuage. Il dit, au nom de Jésus, tu quittes. Et là, l'Esprit de Dieu lui a dit, « Impossible, tu ne pourras pas chasser cette chose-là parce que tu ne peux pas changer ce que j'ai prophétisé arriverait sur la terre. » Mais il dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? » Là, il voyait un grand nuage qui s'en est sur la terre et il voyait plein de gens qui étaient siphonnés dans le nuage comme un aspirateur. Et les gens de partout étaient aspirés dans les ténèbres. Et là, ils voyaient même des gens, plein de chrétiens, qui étaient aspirés dans les ténèbres. Pourquoi? Ils voyaient des gens avec des chaînes, avec des croix, qui étaient aspirés dans les ténèbres. Puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je ne comprends pas. Il dit, ces gens-là n'ont pas aimé la vérité. Ces gens-là n'étaient pas dans la vérité, n'avaient pas les mains pures. Je vais vous lire le verset dans Psaume 24. Mais là, après, il y a eu une deuxième vision. Il y avait un nuage, un autre nuage qui s'en venait, mais c'est un nuage de la gloire de Dieu, un nuage de lumière qui s'en venait, un gros nuage de lumière, mais qui s'en venait. Et là, il voyait des gens courir vers le nuage, Puis il a dit, Seigneur, mais c'est quoi ce nuage de gloire? Il dit, ça, c'est ma présence. Mais c'est qui ces gens-là? Qui sont ces personnes qui courent vers le nuage de la gloire? Il dit, c'est les gens qui ont les mains pures et qui aiment la vérité. Il y a deux camps, frères et sœurs. Puis là, il nous explique ici. Il dit, il y avait comme une alarme en lui. Puis il dit, mais j'ai jamais partagé ça avant aujourd'hui. Il dit, parce que Dieu m'avait dit de garder cette prophétie jusqu'au temps propice. Il a reçu en 1987, à Réma, cette vision-là. Et puis, c'est aujourd'hui, cette semaine que je l'ai reçue, pour dire, nous sommes dans ce temps-là précis, dans l'histoire de l'Église, où il y a deux nuages qui arrivent. Plein de gens vont se faire siphonner dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Mais il y en a un autre camp qui se dresse, des adorateurs de Dieu, des gens qui aiment la vérité et qui ne suivront pas le courant d'entendre juste les choses qu'on veut entendre. Le psaume 24 nous dit, en fait, quand il a demandé au Seigneur dans sa visitation, il a dit, mais Seigneur, il dit, explique ce qui se passe. Puis là, Dieu a répondu avec le psaume 24, il dit, écoutez bien, le psaume 24, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Ici, ça nous parle vraiment la promesse de Dieu. Souvent, la montagne de l'Éternel nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La question, la réponse maintenant, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Mais la réponse qu'il recevait de Dieu, c'était celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Comment y arriver? Comment y arriver à avoir les mains innocentes? Bien, on doit être purifié par le sang de Christ. On ne peut pas se laver nous-mêmes. C'est impossible. Ce n'est pas notre propre justice qui peut nous sauver. On le sait, le salut par grâce. Mais dans notre condition humaine, on doit avoir une recherche de la sainteté. Je m'excuse de vous déranger, mais non, je ne m'excuse pas. C'est la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez dire, OK, mais moi, Pasteur Joie, tu me décourages de ce temps-ci. Tu me diras quand tu vas prêcher sur la prospérité. Je vais revenir. Matthieu 24, versets 10 à 12. Matthieu 24. Ça nous dit, dans Matthieu 24, versets 10 et 12, beaucoup abandonneront la foi, comme dans sa visitation. Ce qu'il voyait dans cette vision-là, il y avait des gens siphonnés comme un aspirateur. Il expliquait même comme un shop vac. Il dit, c'était comme la puissance. Il y avait du monde siphonné dans ce nuage de ténèbres. Beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront. Avez-vous déjà vu ça, des gens traites? Se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Si votre foi est dans un prophète, frères et sœurs, vous écoutez quelqu'un sur Internet, vous tripez dessus puis vous dites, si seulement à un vécu, on pouvait vivre ça. Savez-vous ce qu'on va vivre? On va vivre ce qu'on veut vivre. On va vivre ce qu'on veut vivre. Si on prie, on cherche sa face, le Seigneur a promis la visitation. Mais savez-vous ce qu'on veut vivre? La pureté de la parole de Dieu. Pas un mélange. Pas un mélange, frères et sœurs. Pas un mélange. Quand vous écoutez votre prophète sur Internet, puis vous dites, ah, lui, il vit des choses. Oui, il vit des choses. Mais est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est vraiment du royaume de Dieu? Êtes-vous sûr et certain? Le connaissez-vous dans sa vie privée? Est-ce que c'est biblique? Il y a des gens qui vont vous prophétiser, « Hey, ça va aller de gloire en gloire, ça va être super beau partout sur la terre, le monde va se convertir, des masses vont venir à Christ. » Mais gloire à Dieu, des masses vont venir à Christ, mais savez-vous, moi je crois que ça va se passer pendant la tribulation. Savez-vous le temps que l'Église de Jésus-Christ va se remplir au maximum, que les bâtiments d'Église vont se remplir? C'est après l'enlèvement. Parce que là, les chrétiens qui dormaient, là, qui restaient chez eux le dimanche matin, ces gens-là vont se réveiller et dire, « J'ai passé à côté. » J'étais tellement dans ma petite vie personnelle à moi, mon jeu constant, là. Là, ils vont réaliser, j'ai manqué le bateau, et là, ça va revenir dans nos églises, puis ça va pleurer en petit pépère. Malheureusement, ça va se remplir, oui. Mais je peux vous dire, la Bible nous dit que plusieurs abandonneront la foi à un tel point que dans la parole de Dieu, ça nous dit, quand Jésus va revenir, est-ce que je vais même trouver la foi sur la terre? C'est ça que ça nous dit, la Bible. Votre prophète, ce qu'il vous dit, là, je ne sais pas ce qu'il vous dit, je ne l'écoute pas. Mais savez-vous ce que la parole de Dieu me dit? Ça nous dit qu'il va y avoir beaucoup de ténèbres. Mais venez avec moi dans Ésaïe 60. Autant il va y avoir de ténèbres dans le monde, dans l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Christ pur, il va y avoir la gloire. Donc ne perdez pas courage. Oui, il y a la gloire de Dieu pour nous, frères et sœurs. Mais regardez, on va aller ensemble dans Ésaïe 60. J'aimerais ça des fois juste prêcher des choses pour être aimé. Mais regardez, moi je pense une des raisons pourquoi je me faisais beaucoup niaiser à l'école, savez-vous pourquoi? Moi ça m'a préparé à vivre ce que je vis dans le monde naturel, dans le monde du ministère. Honnêtement, quand j'étais à l'école, à l'âge de 5 ans, vous savez, je me suis converti au Seigneur quand j'avais 4-5 ans, quand j'ai pu 4 ans, là, quand j'ai compris le message du salut. Mais à l'école, j'allais à l'école, puis les enfants se prosternaient devant moi, puis disaient « Alléluia, Alléluia », et les jeunes se moquaient de moi. Mais savez-vous qu'est-ce que ça a fait? J'ai décidé de suivre Jésus, j'étais jeune. Puis peu importe, je vais prêcher ce que Dieu me dit de prêcher. Que le monde m'aime, qu'il ne m'aime pas. Que les gens parlent, qu'ils ne parlent pas. Je veux vous avertir, frères et sœurs. Il y a deux courants, il y a plein de choses, des courants partout dans le monde, dans le corps de Christ. Mais le courant que je veux, c'est celui qui vient de Dieu. Pas de mélange. Pas des choses qui viennent attirer nos sens. Ah, ça, si je veux vivre ça, je veux vivre ça. On peut vivre plein d'affaires et être totalement séduit, frères et sœurs. Si ce qu'on vit, ce n'est pas 100% Bible. Ésaïe 60. Ici, là, ça concerne juste avant l'établissement du second retour de Christ. Ici, là, j'aime ça au bout. Ésaïe 60. Wow. France et France, au bout. Écoutez bien ceci. Ça, c'est pour le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont rencontrer la lumière, Christ. Mais nous, on a déjà la lumière, on a déjà Jésus. Nous sommes les enfants de la lumière, ça nous dit en parole. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. » C'est ça que ça nous dit. C'est ça qui va se passer dans les temps de la fin. « Voici les ténèbres couvrent la terre. » Et l'obscurité, les peuples. Si on écoute les nouvelles puis on entend parler des gens qui sont décapités, toutes ces choses horribles qu'on voit là, frères et sœurs, ça ne s'améliorera pas. Ça va aller de pire en pire. C'est ça que la Bible nous dit. Mais remarquez bien, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Dans le millénium, là, check et bien, la gloire de l'Éternel va habiter toute la terre. Alléluia! Ça, c'est notre héritage. Mais je vais le relire parce que ça me bénit trop. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia! Moi, là, je veux faire partie de la compagnie des amoureux de la parole de Dieu.
Amen.
Qui aiment la vérité. Moi, quand j'ai entendu parler de cette église, Worldwide Church of God, des années de temps qu'ils prêchent un message, ils ont plein d'églises partout à travers le monde, sont nombreux, sont impressionnants, ils font des belles émissions de TV, ils ont des revues, la pure vérité que plein de personnes reçoivent. Hey, il ne faut rien déranger, tout va bien. Mais c'était l'erreur. Puis il y a eu un peuple qui aimait la vérité, qui était prêt. Un peuple qui était prêt à se repentir et dire, même, il y avait, je pensais de vous amener ça, j'ai oublié. Une lettre de repentance au corps de Christ et aux téléspectateurs disant, on vous a trompé, on vous a menti, on est en dehors du bon chemin, mais on est revenu à Christ, pardonnez-nous. Savez-vous, c'est ça qui est merveilleux? Ils ont choisi d'aimer la vérité. Mais savez-vous pourquoi ils ont pu faire fausse route? Un mouvement complet en dehors de la traque. Comment ça, ils ont pu être à côté de la traque? Ils avaient tous leur Bible dans leurs mains pourtant. Comment ça? C'est parce qu'ils ne lisaient pas. Ils ne lisaient pas leur Bible. C'est pour ça, frères et sœurs. Non, mais c'est vrai.
Alléluia.
Mais on est des enfants de Dieu. Lisez votre Bible au nom de Jésus. Hey, j'ai prêché là, 3 semaines, chrétien, lisez votre Bible. Hey, mais on est rendu là, frères et sœurs. J'écoutais un prédicateur cette semaine, il dit, il y a 20 ans, c'était même pas ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens vont juste acheter des livres concernant la Bible. Pas de meilleure vie aujourd'hui, des affaires de même. C'est correct d'acheter un livre, mais si vous passez 2 heures dans votre livre puis 2 minutes dans votre Bible, vous avez un sérieux problème. Frères et sœurs, c'est pas que je veux être méchant, mais... OK. Venez avec moi dans Romains 14, verset 17, s'il vous plaît. Vous savez, les amoureux de la parole de Dieu vont se retrouver. Les amoureux de la parole de Dieu se retrouvent. Puis ce que je trouve merveilleux, c'est dans tous les courants de ce temps-ci, tous les courants, on peut dire, ben moi, je ne suis pas dans tel type d'église. Moi, je suis dans cette sorte d'église-là. Mais ce que je trouve merveilleux, il y a un restant, frères et sœurs. Il y a un restant. Je vous ai parlé de Jim Cimbala, qui amène un message prophétique comme il n'a jamais envoyé dans le corps de Christ. Puis il dit, la tempête est ici. Il ne dit pas, la tempête arrive, là. Non, elle est ici. On a Jim Cimbala. Puis on a un autre, Mark Barkley. Totalement un autre courant. Puis il amène le même message. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu parle aux personnes qui aiment la vérité. L'Esprit de Dieu est en train d'envoyer un message. Puis si on sait qu'on est dans un temps comme ça, on dit, ben moi, je suis mieux de me tenir à la brèche. Je suis mieux de me garder dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Je suis mieux d'être consacré à l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la vérité puis ils vont se faire séduire, frères et sœurs. Mais gloire à Dieu, tant et aussi longtemps que j'ai ma parole, pas sur le bras, là, comme ça, le dimanche matin, mais dans la semaine, elle est ouverte, puis je l'étudie. Puis je connais la parole de Dieu, puis je connais ce que mon Dieu a dit. Puis si un prophète qui prêche sur Internet, il y en a des vrais prophètes, gloire à Dieu, c'est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 16. Il y en a des vrais. Mais un vrai prophète, quand il dit quelque chose de tout croche, là, vous allez discerner parce que vous lisez votre Bible. Mais pourquoi il y a autant de personnes qui se font séduire? Pourquoi? C'est parce qu'on ne lit pas assez la Bible. OK, je suis un peu redondant. L'épouse véritable en préparation pour les noces est en préparation pour son royaume, pour le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Dans Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Si vous êtes concerné totalement juste par... le manger, le boire. Mais c'est l'action de grâce aujourd'hui, on va aller manger de la dinde. Puis on va boire du lait de poule. Il n'est pas sorti encore. Si c'est ça votre vie, là, moi là, c'est la dinde aujourd'hui. Hallelujah, je pense juste à la dinde. Ou si vous vivez pour vous acheter de la dinde. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Mais la justice. La justice ici, ça nous parle la bonne façon d'agir. La droiture de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu, la droiture. Il n'y a pas des affaires tout croche dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas croche. C'est juste. C'est vrai. Amen. La justice. Ça veut dire l'obéissance aux priorités de Dieu. Même si 3/4 de l'Église, un dimanche matin, décide on va faire du camping, nous autres. Celui qui est dans la justice va dire, puis là, ce n'est pas pour excuser les personnes partant à l'extérieur, je vous aime, soyez bénis. Je sais que c'est l'action grâce. N'écrivez pas des lettres pour dire, ben là, pasteur, je voulais aller voir ma famille. C'est correct. Comprenez ce que je veux dire, là. Vous comprenez, là? Je ne dis pas qu'on ne peut jamais manquer d'église puis on s'en va en enfer. Comprenez là, ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui ont toujours des mauvaises priorités en général. Ce n'est pas à l'exception, c'est sont exceptionnellement présents à l'Église. Au lieu d'exceptionnellement s'absenter. Il y a une différence là. Mais exceptionnellement absent. Si on n'a pas les priorités de Dieu, on n'a pas le royaume de Dieu à cœur. Les priorités de Dieu sont claires. On va à l'Église le dimanche. Alléluia! On va à l'Église le dimanche quand on est un enfant de Dieu, quand on aime le royaume de Dieu. On est à l'Église chaque dimanche de notre vie. Je pourrais vous dire, peut-être depuis que je suis au monde, j'ai manqué l'Église peut-être 5 fois. Je ne sais pas, peut-être plus, depuis qu'on est mariés. Je ne sais pas combien de fois. Peut-être 10 fois, peut-être 15 fois, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est exceptionnel. Puis même l'année passée, on a pris des vacances de l'Église EVQ. Devine ce qu'on a fait dimanche matin. On était sur le live stream. Parce que pour nous, ça fait partie de notre vie. Vous avez besoin peut-être d'une révolution, frères et sœurs. Il y a des gens, ça fait des années, vous croyez des mensonges. Mais Dieu nous dit, le royaume de Dieu consiste à la justice. Puis la justice, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Moi, ce que je reviens pas, là, c'est des chrétiens qui disent, ben oui, je suis un enfant de Dieu, mais je fais ce que je veux quand ça me tente. Je suis le Seigneur de ma vie, puis je pense monter au ciel. Je ferai pas de commentaires de plus. Jésus est supposé être le Seigneur de votre vie. Jésus est le Seigneur. Vous n'êtes pas le Seigneur de votre vie. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut se comprendre? Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont être surpris. T'as pas longtemps. Ils vont dire, ben moi, j'ai toujours été Seigneur de ma vie. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mon affaire. Parce que vous n'avez pas le royaume de Dieu à cœur. Vous faites à votre tête. Ça marche pas, ça. Je continue. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix. C'est quoi ça, la paix? C'est avoir une confiance en Christ et en Christ seul. C'est une confiance en Christ. Je place pas ma foi en moi-même ou dans mes affaires. Je place ma confiance en Christ. C'est ça, le royaume de Dieu. Et la joie. Comment vivre dans la joie? Si on est dans le royaume de Dieu, on est dans la joie. Comment ça, on est dans la joie? Parce qu'on a une vision du royaume, puis on a une vision de reconnaissance complète constamment. Comprenez-vous ceci, frères et sœurs? Si j'ai la vision du royaume, je vais être reconnaissant parce que je suis un citoyen du royaume. Je vais être reconnaissant, puis je vais dire, hey, alléluia, la nouvelle Jérusalem, c'est ma demeure. Je suis simplement un ambassadeur de Christ. Et pendant que je suis dans ce monde, je vais être un porte-parole de ce royaume-là. Je vais être joyeux, parce que même s'il y a plein de choses terribles qui se passent dans le monde, ça ne m'affecte pas, parce que moi, je suis juste un ambassadeur. Je suis juste un voyageur sur cette terre en ce moment. Mais je sais que ma maison est en haut et elle m'attend. Puis peu importe ce qui peut se passer dans le monde, peu importe les terreurs, peu importe la noirceur, pis ça! Je suis un enfant de Dieu. Et je ne regarde pas mon verre et dis, il est à moitié vide. Je vais dire, il est à moitié plein. Puis je vais être positif, puis je vais remercier mon Dieu quand j'ai de l'eau dans mon verre. Je vais dire, hey, savez-vous, là, je vais vous dire une autre chose. Au Canada, là, nous sommes le peuple le plus béni sur la planète. En tout cas, on fait partie des plus bénis. Il n'y a pas de pauvres au Canada. Vous allez dire, ah, ben, tu ne me connais pas, pasteur. Écoutez bien, on a tous un toit sur notre tête. On ne dort pas dehors, en général. Puis si on dort dehors, il y a de l'aide qu'on offre. Mais en général, on pourrait tous dire, on dort tous dans une maison ou un appartement. On a un toit sur notre tête. On mange tous les jours. On est vêtu. On a de l'eau courante. Frère qui s'en va en Haïti. Moi, j'étais en Haïti. Il n'y avait pas... Ma toilette, c'était un seau. C'était différent. On est béni. On est super béni au Canada. Super, super béni. Pourquoi je vous dis ça? Ah, reconnaissance. On peut tout reconnaître. Être reconnaissant pour toute chose, constamment. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est une personne reconnaissante, une personne joyeuse. Une personne reconnaissante. Quelqu'un qui trouve toujours à chialer, c'est parce que cette personne-là n'est pas reconnaissante. Frères et sœurs, mais si vous êtes reconnaissant, ça va changer votre vie, frères et sœurs. Ça va changer votre vie. Vous dites, hey, merci Seigneur pour ça. Vous mangez quelque chose, puis il n'y a pas de sauce sur votre poulet. C'est donc un poche, il n'y a pas de sauce sur mon poulet. Vous trouvez une salière. Merci Seigneur pour du sel. Oh, hallelujah! Il y a toujours une façon d'être positif. C'est vrai. Il y a toujours moyen d'être heureux. Vous êtes toujours avec moi, je termine dans quelques minutes. Ça dépend de notre perspective. Donc, le royaume de Dieu ne consiste pas dans manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Bon. Là, je peux vous dire, dans votre perspective humaine, vous pouvez avoir deux perspectives concernant juste comment vous allez vivre votre vie sur la terre. Là. Ma grand-mère, Spinks, Grandma Spinks, née à Toronto, C'est une femme qui a été élevée dans le luxe. Elle a été élevée dans une belle grosse maison, je l'ai vue. Elle a été élevée par une nounou. Une nounou qui l'a élevée. Elle avait deux servantes dans la maison. On a vu des photos d'elle avec un manteau de fourrure, comme ça. Puis on disait, Grandma, j'ai dit, vous étiez très riche à l'époque. Puis je vois les photos des commerces de votre père, puis tout ça. Elle dit, oh non, on n'était pas riches, nous. On n'était pas riches. T'es vraiment pas riche, là? Non. J'ai dit, mais grand-maman, moi, je connais pas beaucoup de personnes qui ont été élevées par une nounou, deux servantes dans la maison, une grosse maison luxueuse, des manteaux de vison, puis des commerces comme ça. Pour moi, je trouvais qu'elle semblait être prospère, riche. Ça, c'était sa perspective. Mon grand-père Poulain, il était bûcheron dans le fin fond du bois. Et puis, j'ai entendu les histoires, mon grand-père avait pas d'argent, il mangeait du ballonné. Puis il disait à sa femme, « Chérie, passe-moi le steak. » Parce que pour lui, il se voyait riche en Dieu. Puis parce que je suis en Dieu, Dieu va pouvoir tous mes besoins, son sa richesse avec gloire. Puis il a fini par manger du vrai steak. Il a fini par en manger du vrai steak. Puis mon grand-père, Poulain, il était très, très prospère aussi. Je ne sais pas si je peux le dire ou non, là. Mais il a fini par être prospère à ce niveau-là, dans les finances. Mais voyez, quelqu'un qui est pauvre dans le naturel se voyait riche, quelqu'un de riche se voyait pauvre. Voyez-vous? Tout est dans la perspective. Puis, je vous dis ça ce matin juste pour comprendre une chose. Vous pouvez être super béni dans votre vie chrétienne, mais en tant qu'épouse de Christ, là, en tant qu'épouse de Christ, si on veut bien être un porte-parole pour notre Dieu, il faut avoir la joie de l'Éternel dans notre vie. Mais comment l'avoir dans le pratico-pratique? Comment avoir la joie de l'Éternel? Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour chaque chose qu'on a. On va avoir la vision du Seigneur et la reconnaissance dans notre cœur. Et toutes ces choses-là, vous avez dit, mais pourquoi on parle de reconnaissance quand on parle d'un message prophétique pour l'épouse de Christ? Mais parce qu'on marche encore les deux pieds sur terre. Et jusqu'au moment où le Seigneur va venir chercher son Église, on doit être dans la gloire de l'Éternel. Puis comment l'être? C'est en étant souriant, en étant dans la joie de l'Éternel. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le matériel. Le royaume de Dieu consiste justement dans la joie, la paix, dans le Saint-Esprit, la justice. Amen. Puis je termine avec ceci. Matthieu 6, 31-34. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Êtes-vous un païen? Bon, il y en a trois. Les autres, êtes-vous des païens? Super. Car ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voyez-vous, la justice revient encore. La justice de Dieu implique ce que Dieu nous a dit de faire puis qu'on marche dedans. OK? Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses matérielles vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Savez-vous, le temps que vous passez à vous inquiéter pour demain matin, c'est un temps que vous auriez pu passer dans la présence de Dieu, dans la joie que Dieu avait prévue pour cette journée-là. Hey, cette journée-là, là, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui, Dieu a une provision de grâce, une provision de joie, de paix, d'amour, toutes ces choses-là, et je vais tout vivre aujourd'hui. Amen. Je vais le vivre aujourd'hui, mais demain matin, se réveille, mais là, je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais aujourd'hui, je vais vivre la grâce encore une fois. Voyez-vous? Mais on peut se faire voler. Il y a plusieurs chrétiens qui se font voler la joie de l'Éternel dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent toujours dans l'inquiétude de lendemain. Mais l'inquiétude, c'est un péché. Ça, c'est un autre message. Disais, oh, mais je m'inquiète de ce temps-ci pour ça. Ok, tu fais des péchés de ce temps-ci? Mais de ce temps-ci, je pêche. Il faudrait plus le dire de même. De ce temps-ci, je suis dans le péché de l'inquiétude. C'est vrai! Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire si vous faites le contraire, c'est de la désobéissance, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu nous appelle d'être fou puis de ne pas être préoccupé, de ne pas être concerné avec nos responsabilités? Non, il faut être concerné. On est concerné par les choses, nos responsabilités, mais on n'entre pas dans la dimension de l'inquiétude. Parce que l'inquiétude, c'est de dire, ben, je m'organise sans Dieu. Comprenez-vous? Alléluia. C'est un autre message, je ne prendrai pas le temps. Je vais arrêter ça, parce que là, ça fait une heure, puis je sais que les dindes sont là, puis ils demandent d'être mangés. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous ai dit plusieurs choses, mais l'épouse de Christ véritable se prépare. Elle se prépare, elle endure des messages comme aujourd'hui. Elle endure des messages où elle se fait brasser parfois pour se faire rappeler à être vraiment dans la vérité, être à la poursuite de la vérité en lisant la Bible. Puis en même temps, l'épouse de Christ, elle discerne le monde dans lequel elle vit. Elle discerne et elle ne se laisse pas siphonner dans les ténèbres. Mais au contraire, elle court vers le nuage de la gloire. Puis dans le rêve du frère Barclay, il dit, il y en a qui se faisaient siphonner, mais il y en avait d'autres qui couraient vers la lumière. Quand on court, c'est une décision personnelle. Voyez-vous? Ce n'est pas les esprits méchants qui nous entraînent. C'est plutôt une décision. Je cours vers la lumière. Je cours parce que je suis un fils et une fille de Dieu. Amen. Je cours, mais si je cours, je suis dans un marathon. Comment ça, je cours? C'est parce que je prends une décision de courir. Je prends une décision d'avancer. Je décide, je vais lire cette parole. Je vais passer du temps avec mon Dieu. Je vais me remplir plus de la parole que je vais me remplir de livres chrétiens ou de prédications de chrétiens. Alléluia! Il n'y a personne qui dit Amen. Si vous avez saisi ça ce matin, gloire à Dieu, Dieu est avec vous. Mettez le royaume de Dieu en priorité dans vos vies et vous êtes en sécurité. Le royaume de Dieu avant toute chose.